Henri.
Putain, mais de quoi il parle ce con-là? Il faut être raide à l'acide pour trouver qu'un joint ressemble à un cafard. Tu te merdes.
Tous les lundis à 21h sur Radio Canu.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus.
Voilà, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Cannabis Circus, comme tous les lundis soirs de 21h ou à peu près, jusqu'à 22h à peu près, ou un peu plus, ça dépend. Donc excusez-nous, on est un petit peu en retard, excusez-moi, parce que je suis tout seul. Donc ce soir au programme de Cannabis Circus, pas mal de choses, pas mal d'infos. Alors on va passer quand même un petit moment sur cet article de Libération intitulé « Comment les stupes ont enfumé la justice ». Très intéressant, un article assez long dont je vous lirai quasiment la totalité. Et avec le communiqué de presse qui suit, Octis, corruption à la tonne. Voilà, on parlera de ça aussi, mais pas que, un peu de faits divers. Des animateurs à Disneyland qui fumaient du cannabis, qui étaient approvisionnés par deux individus qui ont été arrêtés, on verra ça. Une intervention dans l'Express de Sébastien Bégri, dont on a parlé un peu il y a une dizaine de jours, suite à un colloque le 30 novembre dernier à Noise-la-Ville, l'association Noise-la-Ville sur la régulation d'une économie du cannabis en France. Voilà, on parlera un petit peu de ça. On va aussi s'attarder, bien sûr, sur un amendement absolument stupéfiant voté à l'Assemblée nationale. Voilà, on va s'attarder un peu là-dessus, parce que alors là, pour le coup, c'est grave, c'est vraiment grave. Ça peut mettre en difficulté des millions de personnes en France. On verra de quoi il s'agit. Voilà, c'est vraiment lamentable. François Fillon et le cannabis, un autre communiqué de presse du cirque. Et puis pour terminer, s'il nous reste un peu du temps, ce point de vue de Steve Rawls, qui est un analyste et qui est un des analystes principaux des politiques pour l'organisme Transform Drug Policy Foundation. Voilà, quelqu'un qui croit encore et qui revient sur l'échec de la prohibition et qui nous explique un peu comment il faudrait plutôt faire, un peu comme au Canada, on verra ça. Puis s'il nous reste un peu de temps, on ira peut-être aux États-Unis pour reparler à nouveau de ce qui peut se passer aux États-Unis suite à l'élection de Donald Trump. Un article de contrepoint.org, la légalisation du cannabis avance 3 petits points aux USA. Voilà, on verra s'il nous reste un peu de temps de quoi il s'agit. Bon, c'est pas la priorité, on a déjà suffisamment parlé de tout ça. Voilà, alors avant de sauter dans le vif du sujet, de parler un peu de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui s'est lu dans la presse ces dernières semaines, vous rappeler une fois de plus qui est le cirque, hein, donc, enfin, qui anime cette émission tous les lundis soirs de 21h à 22h. Sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, bien sûr, 102.2 MHz, et bien c'est les bénévoles du cirque, le collectif d'information et de recherche cannabique section lyonnaise, voilà, qui demeure à l'adresse suivante, c'est une boîte postale, donc Cirque Lyon, CIRC Lyon, BP 93 043 69 605 Villeurbanne CEDEX. Vous pouvez également nous contacter par mail cirque-du-milieu-lyon@no-log.org. Nous avons également un site internet www.cirque-lyon.fr. Vous pouvez nous contacter par ces différents moyens. Je vous informe également, je le précise parce que pour beaucoup de gens, c'est peut-être pas compréhensible, peut-être qu'on le dit pas assez, mais voilà, le cirque est une association composée de bénévoles. Personne n'est salarié au cirque, nous n'en avons absolument pas les moyens et le cirque ne vit que des cotisations de ses adhérents. Voilà, donc le cirque n'est pas riche, n'est pas non plus très peuplé en termes de membres actifs. Il y avait beaucoup de membres actifs dans les années 90 et jusqu'en 2002-2003, et comme par hasard, quand Chirac a été réélu en 2002, beaucoup de membres du cirque ont eu très peur et ont quitté le navire. Donc voilà, on n'est plus très très nombreux au cirque aujourd'hui. On cherche d'ailleurs des bénévoles, des militants, des gens qui voudraient s'investir dans le cirque, qui sont prêts à se bagarrer avec nous pour faire avancer les lois sur le cannabis, des lois liberticides. Mais en aucun cas, je préfère le souligner, le Cirque n'est pas un groupe d'auto-support de personnes qui ont des difficultés avec leur consommation de cannabis. C'est pas notre créneau, en fait. Voilà, on peut éventuellement vous aider à rencontrer des spécialistes ou des soignants qui pourraient vous aider, vous accompagner dans ces démarches, mais nous, c'est pas notre travail. On est plutôt un groupe d'auto-support d'individus qui sont qui en ont marre de la prohibition et qui ont éventuellement pu avoir des problèmes avec la justice et qui souhaitent se battre pour que les lois changent. Donc voilà, concrètement, ce qu'on fait, c'est nous organisons tous les ans la marche mondiale du cannabis pour protester contre la prohibition au niveau international. Nous organisons également l'appel du 18 juin tous les ans depuis plus de 20 ans. Mais l'activité du Cirque, c'est aussi pour faire connaître tout ça et nos actions, c'est travailler sur des prospectus, des flyers, des affiches à refaire pour les manifs, à coller éventuellement dans la rue. On cherche éventuellement des gens qui auraient peut-être fait des études en sciences sociales et qui pourraient écrire des textes militants ou des textes d'analyse qui dénoncent le lien justement entre prohibition, racisme, prohibition des drogues, racisme et criminalisation des minorités, des jeunes, des gens issus des minorités. Voilà, beaucoup de choses un peu comme ça sur lesquelles il faut travailler, et on n'est plus très nombreux. Donc voilà, s'il y a des personnes que ça concerne ou qui pensent être concernées, eh bien je vous invite à nous contacter ou à aller sur notre site internet et à nous écrire ou à nous appeler. Voilà, c'est à peu près ça qu'il faut qu'on fasse au Cirque. Donc maintenant, on va s'intéresser à la revue de presse, un petit article avant d'écouter un peu de musique et de revenir tout de suite après. Donc voilà, un article qui sort de Orange.fr, du magazine sur Internet de Orange, le fournisseur d'accès Internet hein, et au téléphone portable. Enquête sur un trafic de cannabis au sein de Disneyland Paris. Eh oui. Deux hommes ont été interpellés par la police. Ils sont suspectés d'avoir revendu plus de 6 kilos de cannabis à des salariés de Disneyland Paris. Ça s'invente pas. Donc ces individus qui travaillaient au sein de Disneyland. On peut éventuellement se poser la question, mais comment ça se fait? Comment ça se passe? Quand on travaille à Disneyland, on vit dans des résidences qui sont à proximité du parc d'attractions. Et voilà, c'est là où les salariés de Disneyland vivaient, et ils ont tout simplement été démarchés par deux individus, un de 25 et un de 35 ans, qui ont été mis en garde à vue puis déférés devant un tribunal correctionnel. Ça se passe en Seine-et-Marne. Comment ça se passait? Le plus vieux des deux individus se fournissait à Meaux, dans la ville de Jean-François Copé, un grand prohibitionniste, mais visiblement ça ne sert à rien. Et le plus jeune des deux était lui chargé de trouver les clients. Et apparemment, il y aurait eu une quinzaine de consommateurs qui auraient été identifiés par la police grâce à des écoutes téléphoniques. Voilà, donc encore une fois, quand il s'agit de toutes ces choses, évitez de communiquer par voie téléphonique ou même par email d'ailleurs. Je pense qu'il vaut mieux faire très attention. Voilà, les salariés de Disneyland qui fumaient du cannabis le soir après le boulot sont sans approvisionnement depuis quelques semaines. Voilà. On s'écoute un peu de musique et on revient tout de suite après. Et on va s'écouter. Qu'est-ce qu'on va s'écouter pour commencer l'émission? Je sais pas trop. Les Rolling Bidochons. Allez, voilà, on va s'écouter les Rolling Bidochons. À tout de suite.
Damn it!
Les Rolling Bidochon avec le morceau Tax Ma Dope. Voilà. Alors, avant de s'attaquer à cet article de Libération, c'est dans Libé, oui, si je me souviens bien, oui, cet article de Libération, là, comment les stupes ont enfumé la justice. On va s'intéresser d'abord à cet article de l'Express, encadrement de l'usage du cannabis en France, une évolution inévitable. Voilà, c'est signé par, alors c'est un article qui est fait par Émilie Thon de l'Express et qui reprend une interview des propos de Sébastien Begri. Sébastien Begri qui est l'un des acteurs et cofondateur d'ailleurs de l'Union francophone pour les cannabinoïdes en médecine. Voilà, aujourd'hui les lois françaises sur la consommation et l'attention de cannabis sont obsolètes et non applicables. Chez nos voisins, nous dit M. Begri, les effets thérapeutiques du cannabis médical ont été reconnus et encadrés par des lois permettant sa culture et sa distribution, mais aussi son étude par les professionnels de la santé. Le débat pourtant peine à émerger, la classe politique craignant une augmentation de la consommation chez les jeunes, des addictions aux drogues, de la criminalité et du nombre d'accidents de la route. Néanmoins, les tendances de consommation dans les pays où le cannabis a été légalisé témoignent d'une toute autre réalité. Voilà, par exemple, aux États-Unis, 28 des 51 États ont rendu la substance légale à des fins thérapeutiques et ou récréatives. Ils sont passés d'une guerre totale à une libération du marché progressif, désengorgeant les prisons tout en économisant de l'argent public sur les interventions policières. Ils se concentrent depuis de manière plus efficace contre le grand banditisme tout en contribuant à la croissance économique. Celle-ci est d'ailleurs exponentielle avec la création d'emplois dans tous les secteurs d'activité du secteur primaire ou au tertiaire, agriculture, services publics. Privé et public, en 2015 au Colorado, 996 millions de dollars ont été engendrés par l'industrie du cannabis, 996 millions de dollars de taxes. Hein. Dont 135 millions d'ailleurs, excusez-moi, ont été reversés à l'État sous forme de taxes qui ont été majoritairement utilisées pour rénover des infrastructures scolaires. Aucune hausse de la consommation n'a, pour le coup, été enregistrée, en tout cas pas chez les adultes. Pas chez les jeunes, pardon, c'est plutôt chez les adultes, là c'est une parenthèse hein, que j'ouvre moi, je reprends un peu de mémoire un peu les articles dont on a traité ces derniers mois, il y avait justement un article qui parlait de ça, d'une augmentation plutôt de la consommation chez les adultes, alors qu'en fait bon c'est pas du tout une augmentation de la consommation, c'est juste des adultes qui voyant que cela n'est plus criminalisé de consommer, ben sortent de derrière le caillou ou l'arbre derrière lequel ils étaient cachés d'ailleurs, voilà, donc on ne se cache plus, donc ben, on existe au grand jour et on croit que certain nombre de spécialistes croient qu'il y a une augmentation, alors que non en fait, c'est juste que les gens étaient planqués avant, on ne les voyait pas quoi. Alors voilà, d'après, maintenant venons-en un peu à la France, d'après les derniers résultats du baromètre santé de l'INPES publié en 2014, 700 000 Français de 15 à 75 ans consomment quotidiennement du cannabis et 1,4 million fument au moins 10 joints par mois. Parmi eux, des milliers cultivent leurs propres plantes. Cette nouvelle offre serait, selon l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, l'une des raisons de l'explosion grandissante des jeunes à la consommation de cannabis. Près de 48% des moins de 17 ans admettent en avoir déjà consommé en 2014 contre 41,5% en 2011. Chez les adultes, ce taux est passé de 8 à 11%. La France est dans le top 3 des consommateurs de cannabis en Europe après la République tchèque et l'Espagne. Pourtant, elle est aussi le pays qui possède la loi la plus répressive en la matière. Preuve d'un paradoxe et d'une hypocrisie politique qui ignore de la réalité des habitudes des Français. Cette hypocrisie a des répercussions directes sur les patients, par exemple, hein, à qui le gouvernement avait promis au travers d'un décret publié en juin 2013, avait promis quoi ? Ben, un traitement à base de THC et de CBD. Le dit traitement est en fait un spray sublingual, donc un spray qu'on se met sur la langue et qui s'appelle le Sativex, mais son prix en pharmacie n'a pas été accepté par l'ANSM qui débat toujours avec le Conseil économique de la Sécurité sociale pour savoir à quel prix on doit l'acheter. Donc le prix en pharmacie n'a pas été accepté par l'ANSM qui empêche sa distribution et son accès dans les pharmacies de l'Hexagone. Cette situation oblige les malades à se fournir sur le marché noir ou à cultiver pour leur consommation privée, mais illégale, y compris lorsqu'ils bénéficient d'une prescription médicale pour ces médicaments. En Europe, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas, la Finlande, la Norvège, la République tchèque, la Croatie et l'Autriche ont autorisé l'usage du cannabis médical sous prescription. En 2017, l'Allemagne devrait autoriser l'autoculture et la délivrance de cannabis médical pour les patients et une prescription de leur docteur. Ce sera gratuit pour ceux qui participent à une étude nationale sur l'impact de cette plante sur les maladies. Là, ils mettent un peu les moyens pour voir un peu ce qu'il en est, quoi. Pour être à la hauteur de ce défi, la France devra créer des centres éducatifs pour les professionnels de la santé, de l'agriculture et de l'ingénierie. Dans cet objectif, le think tank Terra Nova propose de créer, à la façon de l'ARGEL, qui est l'autorité de régulation des gens en ligne, une autorité de régulation du cannabis, qui s'appellerait l'ARCA, dont le rôle serait de délivrer des licences de production et de distribution, mais aussi d'encadrer les professions et les formations liées aux emplois engendrés par cette industrie. La France est désormais attendue par l'Europe pour engager son évolution vers l'acceptation et la création de sa filière cannabique Made in France. La présidentielle de 2017 pourra-t-elle permettre de franchir ce tournant et arrêter cette polémique incessante ? Grand point d'interrogation. Grand point d'interrogation. Voilà, donc Sébastien Bégri, hein, comme je vous disais, conférencier, qui est également prof à l'université. Non, pas du tout, excusez-moi, qui est conférencier et cofondateur de l'UFCM, l'Union de française des cannabinoïdes en, francophone des cannabinoïdes en médecine, excusez-moi. Voilà, donc il intervenait le 30 novembre lors d'une conférence organisée par l'association Noise la Ville ou Noise la Ville sur la régulation d'une économie du cannabis en France. Voilà un peu à ce sujet. Voilà, alors maintenant on va s'intéresser à quelque chose d'assez grave. Je vous demande à toutes et à tous un petit peu d'attention parce que c'est quand même grave. Voilà, c'est un article qui est paru, alors il n'y a pas eu que dans l'Humanité, mais là je reprends un article de Laurent Mouloud dans l'Humanité du mardi 29 novembre dernier. De quoi qu'il s'agit ? Eh bien, écoutez bien, les députés ont voté une disposition qui permet de virer de leur location les dealers, mais aussi le simple consommateur de cannabis et sa famille. Voilà, tout le monde dehors en cas de fumette, point d'interrogation. C'est bien ce qui risque d'arriver à certains locataires, si l'on en croit l'amendement plutôt stupéfiant adopté par l'Assemblée nationale la semaine dernière, dans le cadre de l'examen de la loi Égalité et Citoyenneté. Dans le but louable de lutter contre les trafiquants, je ne sais pas si le mot louable est bien adapté, de lutter contre les trafiquants de drogue qui pourrissent la vie de certains quartiers, la députée du Nord, la députée socialiste du Nord, Audrey Linkenheld, a suggéré de compléter la loi du 6 juillet 89 par un alinéa en forme de pétard mouillé, nous dit Libération. En clair, c'est quoi ? Ben, c'est un abonnement qui autorise le bailleur qui en fait la demande à résilier le contrat de location, ouvrez les guillemets, lorsque le locataire ou l'un des occupants du logement a fait l'objet d'une condamnation pour trafic, vente, achat ou usage de drogue en vertu des articles 222-34 et jusqu'à 222-39 du Code pénal. Bref, cette expulsion concerne non seulement l'auteur du délit, mais aussi sa famille qui a le malheur de vivre avec, ou ceux qui l'hébergent, c'est-à-dire, ouvrez les guillemets, hein, les parents et les enfants qui n'ont pas été condamnés et qui n'ont donc rien à voir avec le trafic ou la consommation, mais qui vont donc subir de plein fouet la sanction de l'expulsion, alerte ainsi l'association Droit au Logement, qui y voit une entorse aux principes fondamentaux du droit. D'autant que, nous dit l'Humanité, le champ d'application est extrêmement large. Il concernera des faits se produisant dans le logement loué, mais également, ouvrez les guillemets, dans l'immeuble ou le groupe d'immeubles. En somme, dans tout le quartier. Quant aux faits proprement dit, il s'agira aussi bien de l'achat et de la revente de drogue que du simple emploi illicite de cette drogue. Ça va faire effectivement pas mal de monde dans un pays où plus de 4 millions de personnes déclarent consommer des stupéfiants. Encore une fois, je lis l'article de l'Humanité. En revanche, souligne le droit au logement, cette belle mesure n'inquiétera pas vraiment les gros dealers ou les riches consommateurs, ces derniers ne vivant que très rarement en location. Bref, ça instaure encore une discrimination. Bref, un amendement qui ressemble à un bel écran de fumée. Voilà, et encore une fois, ça vient d'une députée du Parti Socialiste. Voilà, bon, je le dis parce que encore une fois, il y a peut-être des gens qui pensent qu'il y a des gens au Parti Socialiste qui sont de gauche, mais de plus en plus, moi j'en doute. Quand on voit des choses comme ça, c'est absolument confondant, stupéfiant pour le coup. Voilà. Alors ben, forcément, le cirque réagit à cette disposition scandaleuse. Je vous lis l'article, le communiqué de presse du cirque. Voilà, donc loi égalité et citoyenneté, les familles de trafiquants, mais aussi de consommateurs de stupéfiants, s'ils ont été condamnés, pourront être expulsés sur décision de leur bailleur, suite à l'amendement 666-2 adopté dans la nuit du 23 au 24 novembre à l'Assemblée nationale. Droit au logement fait part de sa très vive inquiétude après l'adoption de l'amendement 666-2 lors de la deuxième lecture de la loi égalité et citoyenneté à l'Assemblée nationale dans la nuit de mercredi à jeudi 24 novembre, prévoyant que le contrat de location est résilié de plein droit. Alors je cite l'article. Donc le contrat de location est résilié de plein droit à la demande du bailleur lorsque le locataire ou l'un des occupants du logement a fait l'objet d'une condamnation passée en force. D'une condamnation passée en force de choses jugées pour trafic, vente, achat ou usage de drogue en vertu des articles 222-34 à 222-39 du Code pénal. Le juge n'aura plus alors d'autre choix que de prononcer l'expulsion si le locataire se maintient dans les lieux après la résiliation du bail. Or, il s'avère que cette expulsion concerne non seulement l'auteur du délit, mais aussi sa famille ou ceux qui l'hébergent, c'est-à-dire les parents et les enfants qui n'ont pas été condamnés et n'ont donc rien à voir avec le trafic ou la consommation, mais qui subiront de plein fouet la sanction de l'expulsion. Des locataires pourront subir cette sanction sans même savoir qu'un des occupants a été condamné. L'article 222-37 du Code pénal visé par l'amendement sanctionne aussi les acheteurs et les consommateurs à travers l'acquisition ou l'emploi illicite de stupéfiants, ouvrant ainsi un champ d'application excessivement large. En effet, plus de 4 millions de personnes environ consomment des stupéfiants en France, même s'ils ne sont pas tous condamnés, ni locataires, ni hébergés par un locataire. Ou de son caractère disproportionné, cette disposition est donc contraire à des principes fondamentaux du droit, car elle s'appliquerait à des innocents, hors de l'autorité du juge. L'expulsion est une sanction très grave dans le contexte de crise du logement que nous traversons et ne peut être laissée à l'appréciation d'un bailleur privé ou social. Accessoirement, elle est inéquitable car elle ne concerne pas les propriétaires occupants ni les propriétaires bailleurs. Par exemple, les riches dealers ou consommateurs propriétaires de biens immobiliers ou les parents de riches jeunes dealers ou consommateurs échappent à cette double peine. Le droit au logement considère qu'il a d'autres solutions pour lutter contre le climat de peur que font régner les trafiquants d'un certain quartier, comme par exemple une politique de prévention digne de ce nom et de lutte contre les inégalités sociales. Ouh là là, c'est un gros mot ça. Mais aussi de lutte contre la pauvreté, de lutte également contre les discriminations, principaux vecteurs des trafics et des mafias, ainsi que des mesures alternatives. Bah ça alors, on n'y avait pas pensé. Cet article de loi ouvre la porte à la sanction de l'expulsion représailles pour d'autres délits. Droit au logement demande le retrait de cette disposition disproportionnée et inique, car elle sanctionne des innocents, y compris des enfants et des personnes vulnérables. Elle menace de sanctionner des dizaines de milliers de locataires, consommateurs, acheteurs, entre guillemets, et ouvre la voie à des pratiques expéditives en matière d'expulsion locative. Mais le droit au logement dénonce aussi le rejet d'amendements qui semblaient être utiles, et notamment des amendements qui visaient à limiter les abus dans le cadre d'opérations de l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Le droit au logement souhaitait également faire passer des amendements au sujet de la radiation à vie de propriétaires d'Allo qui auraient refusé une proposition de relogement. Il y avait également des amendements qui prévoyaient de limiter les excès que pourrait entraîner la régionalisation du DALO en Île-de-France ou la durée des procédures d'insalubrité et les pressions que peuvent exercer les marchands de sommeil et les bailleurs indélicats, mais aussi d'autres amendements pouvant limiter les excès qui pourraient subvenir à la création d'un statut d'occupant intercalaire hyper précarisé en dehors de toute norme d'habitation. Voilà, un certain nombre donc d'amendements qui pouvaient être passés, qui étaient un peu appuyés et qui étaient un peu qui venaient du DAL, du droit au logement. Donc des amendements finalement, je dirais, qui voulaient un peu juguler justement tout ce qui est inégalité sociale, discrimination, pauvreté. Et ben là, comme par hasard, alors ça, ces amendements-là, ils disparaissent, on les met sous le tapis. On a une loi complètement dégueulasse qui est votée par une socialiste qui prévoit donc de foutre dehors les consommateurs de cannabis, leurs familles et éventuellement des dealers aussi. Enfin, on est c'est hallucinant quoi, vraiment. Je sais pas si au Parti socialiste ils se rendent bien compte des conneries qui sont faites par des membres de leur parti Et après, il faut pas qu'il s'étonne quand même qu'un certain nombre de personnes aient envie de voter aux extrêmes, quoi. C'est quand même pas étonnant. C'est assez révoltant. Moi, je suis désolé, mais ça m'énerve au plus haut point. Je sais pas ce qu'il faut faire vraiment. Voilà, je suis désolé. J'en perds mes mots. On va s'écouter un peu de musique avant que je perde le fil de cette émission. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir s'écouter? Je me demande si on va pas s'écouter Topu Stylé des Fils de Topu. Je sais pas pourquoi, j'ai envie d'émettre ça. Allez comprendre. Bon, ben voilà, à tout de suite. Allez, un peu de musique des Fils de Topu. Voilà, c'était Topu Style, des Fils de Topu, petit instrumental bien sympa, un peu guiré, voilà, qui donne le ton un peu pour l'article suivant, cet article de Libération, comment les stupes ont enfumé la justice, ah là là. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Rappelez-vous un peu cette histoire. C'est François Hollande. Enfin, c'est pas que ça, hein, mais c'est François Hollande qui va à Paris dans le 16e faire un discours comme quoi il espère que l'interpellation, la saisie de 7 tonnes de cannabis dans un véhicule portera un coup fatal au trafic de drogue en France. Bon, voilà, ça nous a fait beaucoup rire, surtout quand on a su après ce qui s'était passé. Et donc là, voilà, cet article de Libération Le scandale des stupes entre dans sa phase la plus explosive plus d'un an après la spectaculaire saisie de 7 tonnes de cannabis boulevard Exelmans en plein Paris. L'enquête judiciaire confiée aux juges Marc Sommerer et Baudouin Touvenot dévoile l'existence d'un système d'une ampleur inédite. Des dizaines de rapports confidentiels, notes et mails internes auxquels Libération a eu accès viennent étayer nos premières révélations sur ce qui s'apparente à un véritable trafic d'État. Car sous couvert d'une opération d'infiltration secrète baptisée Janissaire, destinée à démanteler des réseaux de trafiquants, l'Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants a directement supervisé l'importation d'au moins 40 tonnes de cannabis en octobre 2015, l'équivalent de la consommation française pendant près de 2 mois, rien que ça. Un système mis en place au plus haut niveau de la hiérarchie policière qui a totalement échappé au contrôle judiciaire. Nous n'avons été informés d'aucun transport de stupéfiants, a expliqué au magistrat enquêteur le juge Lenay en charge du dossier, M. Bertrand Grin. Et il dit comme ça, nous n'aurions jamais accepté la livraison d'une seule tonne de cannabis sous couvert de l'opération d'infiltration. Il était convenu que les convois de stupes s'inscrivant dans ce cadre ne devaient concerner que quelques centaines de kilos de cannabis. Ces convois auraient alors dû faire l'objet d'une commission rogatoire spécifique, mais c'est une mesure qui n'a jamais été requise. Une affaire d'autant plus embarrassante que cette opération d'importation massive était prévue de longue date et son principe parfaitement connu d'un certain nombre de responsables policiers. Plusieurs d'entre eux devraient bientôt avoir à s'en expliquer devant l'inspection générale de la police nationale, la police des polices, qui selon nos informations vient d'être co-saisie. Par ailleurs, le parquet de Paris a ouvert en septembre une autre information judiciaire à la suite des révélations d'un ancien informateur qui a raconté dans les colonnes de Libération avoir été mandaté par l'ex-patron de l'Octis pour charger et décharger 19 tonnes de cannabis dans le sud de l'Espagne. Une affaire qui devrait tôt ou tard être jointe à celle des 7 tonnes du boulevard Exelmans. Et dans ce dernier volet, tout commence en mars 2015. Le commissaire François Thierry, alors patron de l'Octis en fait, sollicite un juge d'instruction lyonnais, donc Bertrand Grin, dont on vient de citer le nom, pour mettre en place une mesure d'infiltration. Officiellement, il s'agit d'approcher les trafiquants présumés pour mieux les coffrer et détruire ensemble et détruire ensuite la drogue saisie. En l'occurrence, la cible est un certain Omar, c'est un nom d'emprunt, présenté comme un trafiquant à la tête d'une organisation criminelle tentaculaire. L'infiltration doit être organisée en collaboration avec le service interministériel d'assistance technique, le SIAT, qui gère tous les agents undercover au sein de la police. Un dispositif sans précédent doit être mis en place. Sous couvert de l'infiltration, il s'agit en réalité de faire entrer de la drogue sous surveillance policière afin d'identifier les réseaux intermédiaires. Un dispositif légal, à la condition d'être rigoureusement encadré par un magistrat. Selon une note confidentielle de la direction centrale de la police judiciaire, datée d'avril 2015, l'opération Janissaire vise à mettre en œuvre, pour la première fois en Europe, une logistique complète d'importation de stupéfiants pour éradiquer plusieurs réseaux d'acheminement en un seul dossier judiciaire. Outre l'Octis et le SIAT, les services espagnols, marocains et algériens sont aussi dans la boucle. Plusieurs cadres de la DCPJ sont également informés de cette infiltration inédite, dont le contrôleur général Philippe Véroni, patron de la sous-direction de lutte contre la criminalité organisée et de la délinquance financière. L'opération Janissaire s'appuie principalement sur un informateur de l'Octis, le fameux Sofiane H, dont on a déjà parlé, considéré comme un des plus gros trafiquants européens et accessoirement principal rival d'Omar. Un indique au pouvoir exorbitant, recruté en Espagne en 2009 et directement traité depuis par François Thierry, le directeur de l'Octis. Étrangement, personne n'a jugé utile d'informer le juge lyonnais de sa présence dans la procédure, de la présence de Sofiane H. Le rôle de ce tonton, entre guillemets, hors pair, est un secret bien gardé au sein de la police. Pendant des années, alors qu'il travaillait déjà pour l'Octis, le trafiquant a organisé son business depuis sa cellule, où son avocat se chargeait de lui fournir des puces téléphoniques. Sofiane H sortira finalement de prison en fin 2014, après avoir bénéficié d'une libération conditionnelle obtenue de haute lutte. Pendant des années, eu égard au service rendu, la haute hiérarchie policière s'est en effet activée pour le faire sortir. Le nombre des affaires réalisées grâce à lui témoigne de son efficacité, de son opiniâtreté, écrit François Thierry en juin 2012. Sofiane H peut aussi compter sur une autre avocate très efficace, Anne-Claire Vietel, qui n'est autre que la compagne de M. François Thierry, le patron de l'Octis. À peine libéré, Sofiane H, donc le trafiquant, est aussitôt sollicité pour servir de pivot à l'infiltration lyonnaise. C'est lui qui va devoir crédibiliser les agents du SIAT auprès de l'organisation d'Omar. Le 5 mars, parallèlement à la procédure lyonnaise, François Thierry prévient de façon informelle les parquets de Paris et de Bobigny du statut d'informateur de Sofiane H, en prenant soin de préciser que le trafiquant est associé à une procédure d'infiltration. Il est actuellement au contact de la logistique d'une puissante organisation de trafic de cannabis pour permettre la mise en œuvre imminente d'une infiltration judiciaire autorisée par un juge d'instruction, souligne François Thierry, pourtant conscient que le juge lyonnais n'est pas informé de l'existence de l'indic. Une façon de cloisonner en empêchant la justice d'avoir un regard global sur l'opération. Prudent, le magistrat lyonnais sollicite l'avis de son parquet sur l'éventuel recours à des livraisons de cannabis sous surveillance policière. Et il dit comme ça, nous nous sommes interrogés un certain temps sur l'opportunité d'autoriser des importations de stupéfiants que l'on risquait de perdre, explique-t-il. Le 16 avril, le magistrat donne finalement son feu vert, à condition toutefois que l'infiltration ne constitue pas une incitation à commettre une infraction. Ah là là, mais comme c'est comique. Excusez-moi. En clair, les agents ne doivent pas jouer un rôle actif dans le trafic. Pour lui, il est inenvisageable d'avaliser l'entrée d'importantes quantités de cannabis sur le territoire. Un calendrier précis est alors fixé par la DCPJ, fin avril, début mai, mise en place de la logistique au plus près de l'organisation criminelle d'Omar. Mi-mai à septembre, infiltration proprement dite, septembre à octobre, interpellation des commanditaires, fournisseurs et destinataires. Début octobre, en effet, les choses s'accélèrent. 5 policiers de l'Octrice et du SIAT descendent à Barcelone pour surveiller l'arrivée d'un poids lourd en provenance de Tanger. Un magnum Renault de 40 tonnes, rempli jusqu'à la gueule de résine de cannabis. Le camion franchit ensuite les Pyrénées dans le cadre d'une ouverture frontière accordée par le parquet de Perpignan dans le cadre d'une procédure distincte. La marchandise est ensuite réceptionnée à Vénissieux, à côté de Lyon, où elle est déchargée dans un entrepôt en présence de 2 agents du SIAT sous le contrôle permanent de l'Octis. 2 premières équipes viennent d'abord récupérer une partie de la marchandise, environ 4 tonnes. Le reste de la drogue remonte le lendemain à Paris, à bord de 2 camions, convoyés par 5 voitures reliées par une flotte de téléphones. Le cannabis est alors stocké dans un pavillon d'Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, avant d'être dispatché entre Mulhouse, Nantes et le boulevard Exelmans, dans le 16e, où plus de 7 tonnes sont entreposées dans des camionnettes garées juste en face du domicile de Sofiane H, un duplex avec piscine, intérieur, loué 9000 euros par mois. Durant toute cette période, le trafiquant est en contact permanent avec ses 2 agents traitant à l'Octis, François Thierry et son adjoint Patrick Laberche. « On se voyait tous les jours », expliquera Sofiane H, « je ne faisais que suivre les ordres ». Mais le 17 octobre 2015, tout s'effondre. Manifestement bien avisé, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, la DNRED, met brutalement fin à l'opération de l'Octis en saisissant les fameuses 7 tonnes entreposées boulevard Exelmans. C'est ces 7 tonnes-là dont je vous parlais qui ont motivé M. Hollande pour venir prononcer un discours dans lequel il formulera cette célèbre phrase en espérant avoir porté un coup fatal au trafic de drogue. Voilà. Bon, qui n'a pas fini de nous faire rire. Donc, en saluant le lendemain ce coup fatal porté aux trafiquants, M. Hollande ignore que cette drogue fait partie d'un lot de 40 tonnes entrées sur le territoire avec la complicité des policiers français. Il ne se doute pas non plus que la saisie des douanes est le fruit d'une guerre des services qui a pris une ampleur sans précédent. Furieux, François Thierry, directeur de l'Octis, dénonce auprès de ses supérieurs une saisie sèche, intempestive et précipitée de la douane qui compromet une infiltration judiciaire très prometteuse. Contacté par Libération, le commissaire affirme avoir toujours informé les magistrats des procédures impliquant des indics. Mais le parquet de Paris ne l'entend pas de cette oreille. Estimant que l'Octis a dissimulé l'existence de Sofiane H, une information capitale, François Molins, le procureur de la République de Paris, dessaisit aussitôt le service au préfet de la brigade des stupes du 36 quai des Orfèvres de la section de recherche de la gendarmerie de Paris. Interpellé en Belgique après 2 mois de cavale, Sofiane H est rapatrié rapidement à Paris en hélicoptère, escorté par le GIGN. Lors de la perquisition de son dernier appartement, la police belge a mis la main sur un carnet oublié dans sa fuite dans lequel il consignait une partie de sa comptabilité Et sur une des pages griffonnées, il est fait mention de 43,7 millions d'euros répartis entre Alger, Punta Cana en République Dominicaine, la Thaïlande, Marrakech, l'Espagne et Dubaï. Entendue depuis par les juges français, Sofiane a répété n'avoir pris aucune initiative, exigeant à plusieurs reprises d'être confrontée aux fonctionnaires de l'Ocritis. Et il dit comme ça, hein, vous pensez qu'avec mon expérience de trafiquant, si la marchandise était à moi, j'aurais laissé près de 400 paquets dans ma rue ? A-t-il ironisé en audition. Jusqu'où les autorités judiciaires étaient-elles informées du rôle exact de cet informateur hors norme ? Désormais, deux camps se font face, le parquet de Paris d'un côté et la DCPJ de l'autre. Selon François Thierry, son indic exemplaire aurait permis à lui seul la saisie de plus de 60 tonnes de résine de cannabis, l'identification de plusieurs dizaines de malfaiteurs chevronnés, l'élucidation d'une douzaine de règlements de compte et plus d'une centaine d'interpellations. Une version confirmée par une note signée par la directrice centrale de la police judiciaire, Mireille Balestrazzi, selon laquelle plusieurs documents en réunion ont permis depuis 2010 à l'Ocritis de présenter le rôle de Sofiane H. au parquet de Paris. Le parquet aurait par ailleurs traité des affaires d'envergure permises grâce à l'entreprise de Sofiane en toute connaissance de cause. Mais ces affirmations font bondir le procureur de Paris, François Molin. Dans un courrier cinglant daté du 10 juin 2016, le procureur de Paris indique n'avoir été informé de l'existence de Sofiane H. que le 5 mars 2015, sans qu'aucune procédure le concernant ne soit transmise ultérieurement. Cette divergence de vue entre les plus hautes autorités policières et judiciaires soulève de très nombreuses questions. Comment 40 tonnes de cannabis ont-elles pu entrer sur le territoire français en dehors de tout contrôle ? À qui était destinée cette drogue ? Et combien Sofiane H. a-t-il touché pour ses précieux services? Officiellement, le trafiquant n'a été rémunéré que deux fois par le Bureau central des sources du ministère de l'Intérieur pour un montant total de 45 000 misérables euros. Hein. D'ailleurs, personne n'imagine qu'un indic de cette envergure ait pu prendre de tels risques pour une somme aussi dérisoire. Pour répondre à ces questions, les juges vont désormais interroger tous ceux dans la haute hiérarchie policière qui ont pris part à cet étrange système. Voilà, je souhaitais vous lire l'article dans son intégralité. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, cet article a suscité une réaction du cirque avec un communiqué de presse que je vais vous lire. Hein. Voilà, nouveau rebondissement dans l'emblématique affaire de corruption de l'Ocritis savamment organisée par son ex-patron, monsieur François Thierry. Ce que l'on pensait être un petit trafic entre amis semble avoir été une énorme opération de marketing. Censé servir à démanteler des réseaux criminels, ce serait près de 40 tonnes de cannabis que les agents de l'institution située en première ligne dans la lutte contre les stupéfiants auraient importé en France au nez et à la barbe des douanes, de la gendarmerie et de la justice. Une nouvelle illustration donc de ce que produire un système dénué de règles où l'interdit encourage des opérations clandestines indubitablement illégales, où des institutions policières s'associent avec certains trafiquants pour en arrêter d'autres. Nous sommes loin des objectifs affichés d'éradiquer les drogues, bien plus proches de la posture visant à rassurer la population. Et nos ministres et présidents de se précipiter pour parader devant les saisies records dont nous connaissons à présent l'origine. Corruption, exécution à l'arme lourde, harcèlement des usagers principalement jeunes et issus des quartiers populaires et des minorités visibles, la prohibition continue de faillir. Son incapacité à répondre au phénomène n'a d'égal que l'incompétence du législateur à prendre les mesures qui s'imposent. Si une loi, malgré les aménagements adoptés depuis sa création, ne produit pas les résultats escomptés, il devient alors nécessaire de l'abroger, de proposer de nouvelles orientations. Les solutions existent. Il s'agit là d'un véritable choix de société que de savoir si nous sommes prêts à abandonner au réseau criminel le marché des drogues en général et du chanvre en particulier, ou si nous accordons par ailleurs à l'État le droit de juger de ce qui est bon ou non pour l'individu et de laisser à des institutions policières exposées à la tentation de la corruption le soin d'en décider. Des questions qu'il faut d'autant plus se poser que l'expression décomplexée, réactionnaire, prend de plus en plus de place dans l'espace public aujourd'hui. La parole irrationnelle des religions s'immisce chaque jour un peu plus dans celle de nos politiques afin d'empêcher ou pour remettre en cause des droits acquis de haute lutte. Ce fut le cas avec les lois de Madame Taubira, c'est à présent autour de celles de Madame Veil. Insidieusement, la morale religieuse vient polluer le débat démocratique avec souvent la caution du pouvoir, si prompte à se rendre dans les temples, les églises, les mosquées ou les synagogues au moindre fait divers, si depuis plus d'un siècle l'on a séparé les pouvoirs de l'Église et de l'État, il semble que le cordon n'ait jamais vraiment été coupé entre les institutions religieuses et certains et certaines ou certaines élus. Voilà. Alors, moi j'ai envie de vous lire un autre communiqué de presse rédigé par le CIRC. Celui-ci concerne François Fillon, le réac de droite qui va défendre les couleurs de son parti aux élections présidentielles au mois d'avril prochain. Je vous lis le communiqué de presse juste après parce que après ce qu'on vient de voir, après cet article de Libération là qui nous raconte toutes ces histoires de corruption à coups de tonnes et de millions d'euros, de tonnes de cannabis et de millions d'euros organisés par la police. On a un François Fillon droit dans ses bottes, on ne peut plus prêt à camper sur ses positions rétrogrades et notamment en ce qui concerne le cannabis. Donc le désormais candidat officiel d'une droite qui s'assume y allait alors en contre-vérité sur la question du cannabis en évoquant les habituels arguments répandus par les croisés de la guerre à la drogue. Il opposait par exemple l'actuel mouvement visant à lutter contre le tabagisme à celui prônant la décriminalisation nécessaire d'une substance à présent très prisée par nos concitoyens et concitoyennes et noté une remarquable augmentation de la consommation chez les jeunes sans pour autant remettre en question le dispositif répressif incapable de l'endiguer. Il terminait, Monsieur Fillon, selon l'AFP, en pointant du doigt les Pays-Bas qui n'auraient pas les résultats qu'on veut bien leur donner. Ou encore, je cite aussi, on ne peut pas dire que là où c'est dépénalisé, il y a moins de consommateurs. Mais qu'il est bête. Se permettait-il d'ajouter, plutôt que de mauvaise foi, admettons que Monsieur Fillon soit juste mal informé. Voilà, donc pas bête, mais mal informé, ou juste pas informé du tout. Il sait pas lire peut-être. Voilà. Le CIRC l'invite à consulter toutes les publications récentes traitant de ce sujet, les rapports émanant du Portugal par exemple qui devraient suffire à le convaincre de l'absurdité de ses affirmations. Ce pays a le plus bas taux de consommation de stupéfiants bien que leur usage y soit dépénalisé depuis 15 ans. Cette politique accompagnée de programmes de prévention audacieux est considéré comme exemplaire par l'ensemble de la communauté des professionnels en addictologie et ce dans la plupart des pays. Quant aux Pays-Bas évoqués, ils souffrent surtout d'une stigmatisation injuste de la part de la France notamment, des reproches initiés durant les années Chirac alors que celui-ci persistait à entretenir les meilleurs rapports avec le principal producteur et exportateur de résine de cannabis vers l'Europe, le Maroc. Il serait donc bienvenu que Monsieur François Fillon et son équipe tiennent également compte de ce qui se produit outre-Atlantique avec le changement radical de politique en matière de cannabis, notamment l'abandon progressif de son interdiction dans plusieurs États nord-américains et aussi prochainement au Canada, entériné dans 8 autres nouveaux États lors des récents référendums survenus lors de l'élection présidentielle, confirme qu'il s'agit bien d'un mouvement irréversible auquel l'Europe ne pourra pas se soustraire. Présenté comme libéral, le programme économique de Monsieur Fillon ferait donc bien de s'inspirer de cette tendance plutôt que de ressasser les propos surannés des quelques fervents partisans de la prohibition qui semblent le conseiller encore. En consultant par exemple toutes les études réalisées depuis des années par des institutions internationales difficilement soupçonnables de duplicité à l'égard des réseaux criminels que la prohibition, elle, enrichit chaque jour un peu plus. Quoi qu'il arrive au printemps 2017, nous appellerons à voter Marie-Jeanne. Et nous appellerons à voter tout sauf François Fillon, en tout cas, ça c'est sûr. On ne vous appellera à voter pour personne d'ailleurs. Vous ferez vos choix dans toute liberté de conscience. À ma connaissance, il y a assez peu de candidats aux élections qui soient plutôt favorables au cannabis, en tout cas qui se sont déclarés. En ce qui concerne la gauche entre guillemets, une de celles qui est le plus qui serait éventuellement la plus prompte au progressisme en la matière, c'est Christiane Taubira, si elle se présente à la primaire du PS, ce qui n'est pas sûr, et bon, encore moins sûr, enfin c'est encore moins sûr qu'elle gagne, voire même on est sûr qu'elle va perdre. Mais bon, tout est possible, hein. Personne n'avait prévu l'ascension de François Fillon. Alors j'espère me tromper et j'espère qu'elle me donnera tort, mais j'ai du mal à rêver à ce niveau-là. Franchement, je vous cache pas que Ça me paraît très, très, très hypothétique. Voilà, on reparlera de tout ça un peu plus tard, je pense dans les prochains mois il y aura probablement des candidats qui s'exprimeront sur la question, on verra lesquels ils sont. Pour l'instant on a quelques présomptions à propos d'un des candidats, mais bon, c'est rien de sûr. Voilà, on va se quitter dans deux minutes parce que Chasseur de Son et son invité sont en train de se préparer. Ah mais ils sont pas tout à fait prêts, bon d'accord, on a peut-être 2-3 minutes, alors voilà, un article qui est paru dans le journal Metro.com, la version suisse j'ai l'impression, un article de Jeff Yates qui reprend les propos de Steve Rolls, analyste principal des politiques pour l'organisme Transform Drug Policy Foundation. Voilà, la prohibition des drogues a été un désastre. Et le Canada pourra jouer un rôle de leader mondial quand il entamera la légalisation du cannabis. Voilà ce que croit Steve Rolls, analyste principal donc des politiques, pour Transform Drug Policy Foundation. Voilà. Monsieur Rolls était de passage à Montréal la semaine dernière, donc c'est la version journal métro, mais canadienne, donc de Montréal, où il prononcera donc un discours à l'occasion de la journée thématique sur la légalisation du cannabis, organisé par l'Association pour la santé publique du Québec et l'Institut national de la santé publique du Québec. Voilà. L'analyste fait savoir que même si certaines substances dont le cannabis, la cocaïne ou l'héroïne sont illégales depuis des décennies dans plusieurs pays, le nombre de personnes qui les utilisent ne fait qu'augmenter. Il y a très peu d'indications que la guerre contre les drogues décourage les utilisateurs ou rend l'accès difficile, juge-t-il. Selon lui, les problèmes liés aux drogues devraient être traités comme des problèmes de santé publique. Il donne ainsi l'exemple de la cigarette, qui est légale, mais contrôlée. Pourtant, même si l'usage du tabac est légal, des années d'éducation et d'intervention auprès des fumeurs ont permis de diminuer les taux de tabagisme. Les taux d'utilisation du cannabis, en revanche, ne flanchent pas. Et il dit, nous, on a un produit légal et réglementé avec de bons résultats en santé publique et un produit illégal réglementé avec des résultats négatif. Nous devrions en tirer des leçons, avance-t-il. Les politiciens doivent réduire l'impact négatif des drogues sur les usagers et sur la communauté dans laquelle ceux-ci vivent. Toutes les études nous démontrent que livrer le contrôle du marché des drogues au crime organisé donne des résultats contraires. Pour lui, l'approche policière pour combattre l'utilisation des drogues, si elle peut sembler logique, ne fonctionne pas, tout simplement. Il dit, nous avons un problème de santé publique et la ligne de front de notre approche est formée de policiers et de soldats. C'est une erreur catégorique, ce serait comme utiliser l'armée de l'air pour combattre le diabète. C'est ridicule, ce ne sont pas des gens qui sont bien placés pour traiter ce problème. Dans ce style, en ajoutant que, d'après lui, les professionnels de la santé devraient mener ce combat. En plus d'avoir peu d'effet sur les taux d'utilisation des drogues, la prohibition crée un vaste marché noir avec un chiffre d'affaires mondial de quelques 100... alors attendez, faut que je... 100 gigadollars, donc c'est 100 trillions de dollars, j'ai bien compris, ou millions, ouais, ça doit être ça, annuellement. Nous avons laissé le contrôle de ces substances hautement dangereuses aux pires personnes possibles, soit les criminels et les gangs. Si nous voulons empêcher les jeunes d'utiliser ces substances, nous devons contrôler nous-mêmes le marché et pas laisser le marché à Mafia sans frontières. Ça, c'est moi qui rajoute, c'est les propos de Lovenstein, mais ça me rassure de voir quand même que même outre-Atlantique et un peu partout dans le monde, il y a quand même des gens raisonnables qui voient à peu près les choses pareilles. Monsieur Rolls salue l'intention du gouvernement du Premier ministre du Canada, Monsieur Justin Trudeau, de légaliser le cannabis. Il juge que le gouvernement a envoyé plusieurs messages encourageants qui le portent à croire que l'administration Trudeau s'en va dans la bonne direction. Les yeux du monde entier se tourneront vers le Canada pour voir ce qui arrivera, explique-t-il. Le Canada deviendra un des leaders mondiaux en la matière. Que le gouvernement le veuille ou non, le pays tient maintenant un rôle de leader. Voilà pour cet article. Donc je ne sais pas si Chasseurs de Son, ils sont complètement prêts ou pas. Non, bon, alors je continue. Je vais terminer donc sur cet article de Contrepoint. La légalisation du cannabis avance 3 petits points aux USA. Un article du 1er décembre dernier par Edouard H. qui reprend un peu bon ce qu'on a vu, hein, je vais pas vous le faire en intégralité, mais ce qu'on a vu, ce dont on a déjà parlé, c'est-à-dire que début novembre, au moment où il y a eu les votes pour les élections présidentielles, il y a un certain nombre d'États qui proposaient à leurs électeurs de voter des motions qui vont avoir cours uniquement dans l'État où elles ont été votées. Donc c'est pour ça que en Californie, dans le Massachusetts, dans le Nevada, le Maine, on a voté pour légaliser le cannabis récréatif. En Floride, dans l'Arkansas, le Montana, le Dakota du Nord, là on a plutôt passé la première étape de légalisation du cannabis pour un usage thérapeutique. Bien qu'une initiative de légalisation ait échoué en Arizona et que le cannabis reste prohibé au niveau fédéral, cela reste une large victoire pour le mouvement de lutte contre la nocive et liberticide prohibition des drogues aux États-Unis. Voilà. Obama l'avait annoncé dans une interview sur HBO. Si l'initiative de légalisation passait en Californie, la prohibition au niveau fédéral ne serait pas tenable. Avec 37 millions d'habitants, la Californie, hein, qui est l'État le plus peuplé des États-Unis, la prohibition de cannabis au niveau fédéral paraît maintenant politiquement difficile à maintenir. Bien que légal pour l'usage thérapeutique depuis 1996, le cannabis restait quand même, avant ce vote, interdit en Californie pour un usage récréatif. Il était quand même dépénalisé. En 2008, hein, le gouverneur Schwarzenegger avait dépénalisé l'usage et la possession de 30 grammes. Donc c'était déjà vachement moins pire qu'ici, mais là maintenant c'est légal. Voilà, carrément. Alors, le nombre de personnes arrêtées pour usage de cannabis en Californie entre 2010 et 2014 avait quand même atteint plus de 154 000 personnes. Et face à ces injustices, la loi de légalisation qui a été votée inclut une innovation par rapport à celle des autres États. Elle prévoit un système d'effacement rétroactif des condamnations passées liées au cannabis. Ça, c'est super bien. Toutefois, à mesure que le cannabis sort progressivement de l'économie souterraine des États-Unis pour rejoindre l'économie légale, certains problèmes demeurent, hein, c'est sûr. En effet, cette nouvelle économie a du mal à obtenir le moindre service auprès des institutions bancaires, hein, ce dont on a déjà beaucoup parlé, ce qui peut créer de lourds problèmes pour gérer les finances d'une entreprise et la paye des employés. Hein. Au niveau fédéral, le cannabis est classé dans le Schedule 1 des drogues, c'est-à-dire le plus restrictif, toujours encore aujourd'hui, hein, ce qui dissuade les banques d'approcher ce secteur et les entrepreneurs du marché malgré les risques. Voilà. Au Colorado, hein, qui fut le premier État à légaliser le cannabis à la fois pour des usages médicaux et récréatifs, un nouveau rapport révèle que cette nouvelle industrie légale a généré 2,39 milliards de dollars en 2015 et emploie maintenant plus de 18 000 personnes à temps plein. En outre, Denver, qui est la capitale de l'État, a voté pour légaliser l'usage social du cannabis dans des lieux commerciaux comme des bars, des studios de yoga ou des galeries d'art. Les lieux privés accueillant du public pourront bientôt demander des permis pour que leurs clients puissent consommer du cannabis sur place. Hein, pareil, on en avait déjà un peu parlé. Plus tard, un peu plus loin dans l'article, on nous parle du délitement de la prohibition au niveau mondial. Là, ça serait par exemple au Mexique. Au Mexique, on réfléchit sérieusement à changer de politique. Voilà, parce que ça, c'est complètement obsolète tout ça. Mais on cite également des cas tragiques de mise en danger directe de la santé publique à cause de l'idéologie anti-drogue d'abstinence. Par exemple, je cite, des patients en Crimée sont morts après l'invasion russe car on les a forcés à arrêter de prendre de la méthadone, qui est vu comme de l'abus d'opiacés et illégal en Russie. La promotion de l'abstinence par le gouvernement britannique aux dépens de traitements de maintenance a sûrement contribué à une multiplication par deux du nombre de morts liées aux opiacés entre 2012 et 2015. Par ailleurs, le très complet rapport annuel 2016 de la Global Commission on Drug Policy des Nations Unies a été publié dernièrement et appelle une nouvelle fois à la fin de la pénalisation de l'usage et de la possession des drogues, ainsi qu'à davantage de recherches dans les modèles alternatifs de réglementation des drogues face à l'échec total de la prohibition. Je pense à M. Fillon, déjà, le père Fillon, il devrait se renseigner avant de dire n'importe quoi, et avoir accès au rapport de la Global Commission on Drug Policy des Nations Unies, qui n'a rien d'un organisme de hippie prenant la fumette un peu partout. Voilà. Alors, pour finir, y a quand même des initiatives un peu partout en Europe, par exemple dans certaines villes de Suisse, qui voudraient permettre aux malades qui ont besoin de cannabis thérapeutique de se voir faciliter l'accès à ce cannabis thérapeutique. Berlin songe également à un modèle de légalisation partielle du cannabis. Dans son bouquin En France, Emmanuel Macron, je ne voulais pas parler de lui, mais bon, ça sort dans cet article. Emmanuel Macron a dévoilé dans son livre Révolution qu'il était en faveur d'une contraventionnalisation de l'usage. Vous voyez, c'est pas non plus génial, hein, de petites quantités de cannabis. Voilà, bon, c'est toujours mieux que rien, mais c'est le plus en pointe, à mon avis, c'est malheureux. Hein. Voilà. Et puis, cet article finit en disant, bon, voilà, il faudrait peut-être quand même faire quelque chose, parce que ben, ça, en France, la situation, c'est quand même aussi la corruption. On reparle de ces 40 tonnes de cannabis importées avec la complicité de la police. Voilà, merci le contrepoint de reprendre tous ces éléments et de les opposer et de les voilà pour montrer que bah, cette situation en France elle est absolument ubuesque, voilà, discrimination, racisme, corruption généralisée de la police, peut-être même de la justice, on verra, et non-respect des droits humains, hein, finalement, parce que avec un taux d'incarcération hyper important dans nos prisons et un haro sur les fumeurs de cannabis, la France est certainement l'un des pays les plus rétrogrades en la matière. Alors bon, pas au niveau des Philippines, hein, pas au niveau non plus de l'Indonésie où le président Duterte et Joko Widodo sont favorables à la peine de mort en Indonésie et la diabolisation et la stigmatisation à outrance des usagers de drogue provoquant un appel au meurtre avec déjà plus de 2000 morts. Bon voilà, on n'en est pas là, mais en France, on est quand même à la ramasse. J'espère que les élections présidentielles feront changer les choses, feront avancer les choses avec Macron ou un autre. Hein, on est sûr de rien avec cela, de toute façon. Donc c'est là-dessus que se termine Cannabis Circus aujourd'hui, lundi 5 décembre 2016. Et maintenant, sans plus tarder, très vite, c'est Chasseurs de Sons avec un invité. Voilà, le petit jingle générique de fin. Et c'est tout. Bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Cannabis Circus. Merci de votre fidélité. Au revoir.